Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme « Votre santé, un trésor ». Aujourd'hui, nous rencontrons un juriste et ancien haut fonctionnaire spécialisé dans le droit public, les solidarités, l'emploi, le travail, les libertés fondamentales et la laïcité. Il est aussi homme politique et responsable de nombreuses associations françaises. Il a été directeur et directeur adjoint de la direction départementale interministérielle de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Hérault entre 2021 et 2025. Et aujourd'hui, consultant, formateur en particulier sur la laïcité, il s'agit, vous l'avez compris, de monsieur Nicolas Cadenne. Bonjour à vous, monsieur Cadenne, et merci d'être avec nous dans Votre Santé, un trésor sur Radio Alliance Plus.
Bonjour et merci beaucoup pour votre accueil.
Et merci surtout de votre présence, parce que nous, on accueille facilement, mais il faut venir. Vous avez été aussi, et c'est très important de le préciser, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité instance. Publique transpartisane placée auprès des premiers ministres successifs de 2013 à 2021, ce qui fait 8 ans. Que pensez-vous nous dire de plus sur votre carrière et sur vos multiples activités ?
Écoutez, j'ai toujours, je crois, été guidé par la notion d'intérêt général depuis mon plus jeune âge. Avant même de prendre mes fonctions dans la vie professionnelle, je me suis engagé très tôt dans le milieu associatif, oui. À Nîmes. Donc j'ai rejoint...
Une question, vous êtes nîmois ?
Oui, je suis nîmois, je suis né à Nîmes il y a 44 ans de cela.
Et, vous ne les faites pas.
C'est gentil.
Comme quoi Nîmes conserve.
Merci. Donc j'ai bien sûr un petit peu bougé dans d'autres villes, mais je suis revenu à Nîmes. Et donc dès mes jeunes années, je me suis engagé dans le milieu associatif nîmois, notamment la Croix-Rouge où j'ai été secouriste et puis où j'ai fait pas mal de maraude de SAMU social pendant 4-5 ans.
Ouais.
Et puis aussi dans des associations comme la Ligue de la Droits de l'Homme, comme Amnesty International, bien avant encore, dès mes 12-13 ans, j'écrivais des lettres en soutien par exemple aux prisonniers politiques à l'étranger. Donc dans différentes associations également environnementales pour la protection donc, de notre environnement. Et puis donc, je ne sais pas si c'est logiquement, mais c'est ce côté un peu plaider la cause de ceux qui sont en difficulté. J'avais une envie peut-être d'être avocat. En tout cas, j'ai fait du droit. J'ai fait du droit et, à Nîmes, à Montpellier. Et puis ensuite, j'ai aussi fait Sciences Po Lille. Puis j'ai terminé à Panthéon-Assas à Paris. Et après, j'ai eu une carrière qui s'est faite un peu par opportunité et par intérêt, bien sûr. On m'a proposé un travail intéressant... à la Commission nationale du débat public, où je devais répondre aux interrogations du grand public sur des grands travaux d'infrastructure, et notamment au regard du droit, justement, est-ce qu'il était possible ou pas de faire. Et puis, donc, c'était intéressant en termes de démocratie participative et d'écoute des citoyens sur leur réalité, leurs difficultés face à des gros projets d'infrastructure qui pouvaient impacter leur quotidien. Et ensuite, à la suite de ça, je voulais un petit peu plus être acteur du changement, donc forcément me rapprocher peut-être de la vie politique. J'ai été... adhérent d'un parti politique, le Parti Socialiste. Je ne suis plus dans aucun parti désormais d'ailleurs, mais j'ai été longtemps adhérent. Et à ce moment-là aussi, un député, un parlementaire qui était aussi président département, Jean-Louis Bianco, m'a proposé de le rejoindre. Un homme passionnant et ancien ministre, ancien secrétaire général de l'Élysée. Et donc j'ai longtemps cheminé avec lui. En tant que conseiller et collaborateur. J'ai aussi accompagné Simon Sutour, qui était sénateur du Gard, ici même, et puis un autre sénateur, Jean-Marc Todeschini, en Moselle. Et puis, après cela, on a eu une alternance politique, et là, on m'a proposé...
Ça permet de réfléchir, de se reformer et d'aller de l'avant.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, toujours d'essayer de changer vraiment le quotidien des gens, de répondre à leurs attentes les plus immédiates et en même temps de réfléchir à des changements à monter sur du moyen et du long terme par des politiques publiques ambitieuses et qui s'élaborent au niveau national. Il y avait à la fois le territoire avec les circonscriptions et le national sur les politiques publiques à mener en termes de macro. Et puis quand j'ai été donc appelé à être conseiller ministériel, j'ai participé à cette élaboration de lois qui ont un impact sur l'ensemble de la société. Donc j'ai essayé de le faire de la meilleure des façons. J'ai beaucoup travaillé par exemple sur la loi contre le gaspillage alimentaire, mais aussi sur la loi préservant la biodiversité. Et puis après donc ce passage dans les cabinets ministériels, j'ai d'ailleurs aussi largement participé à la sauvegarde du site industriel des Salins du Midi qui était vraiment menacé de disparition, de vente à un autre groupe et de disparition pour des raisons purement ultra-libérales, si je puis dire, puisque là, l'entreprise faisait des bénéfices, mais pas suffisamment au regard du PDG du moment qui voulait beaucoup
donc,
plus de bénéfices.
Une vie ultra-riche, ultra-remplie et toujours vers l'autre. Bien souvent, nos invités sont attirés par l'autre.
Oui.
Sinon,
oui.
Ils ne viendraient pas dans mon émission.
Oui, c'est ça.
Et alors, le mot qu'on retient suite à votre patronyme, c'est la laïcité.
Oui.
Et ce qui m'a intéressé de vous inviter pour 3 émissions, c'est la première aujourd'hui, c'est que la médecine est laïque.
Tout
on ne peut
fait.
Pas concevoir une médecine avec une connotation religieuse. Je veux dire, moi, je ne peux pas le concevoir. Donc, je trouvais que c'était très intéressant de vous inviter parce que vous êtes un spécialiste de la laïcité. Il y a un diplôme universitaire à l'université de Unini. J'étais avec le président Rogue. On l'a évoqué il y a peu de temps. Et donc, la médecine ne peut être que laïque.
Tout à fait.
Voilà,
je vois mal. Enfin, je le conçois comme vous.
Un médecin qui dit de quelle religion vous êtes.
Je le conçois comme vous, même si pendant longtemps il y a eu...
Apolitique. Ah oui, pendant longtemps, mais
il y a une confessionnalisation avec effectivement des établissements qui ne recevaient que ceux de la
religion.
Oui,
mais on parle de la médecine que je pratique et que,
tout à fait.
Et que de laquelle je descends, que je défends, et elle ne peut être que laïque.
Tout à fait.
Et l'endroit où on fait de la médecine, à part les cabinets médicaux, c'est l'hôpital. Donc nous allons parler de la laïcité à l'hôpital. Hein, tout le monde sait que la laïcité doit être à l'hôpital. Alors, je pense que tout le monde croit savoir ce que c'est que la laïcité, mais expliquez-nous, vous qui êtes vraiment un spécialiste du terme, parce que tout le monde dit « c'est laïcité, on entend tout », mais c'est quoi ?
C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, la laïcité, chacun a tendance à penser que la laïcité est ce que cette personne elle-même pense personnellement, et que ce qu'elle pense est la laïcité dans l'absolu.
C'est un peu comme la tauromachie.
Ouais,
tout le monde connaît la tauromachie.
Voilà, chacun a son opinion. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela. Enfin, c'est beaucoup plus complexe. Non, la laïcité en tant que principe général n'est pas très compliquée, mais effectivement, elle renvoie à des convictions personnelles, à des débats de société qui fait que chacun peut avoir son interprétation. Et effectivement, philosophiquement, il y a toujours une multitude d'interprétations de ce qu'était la laïcité. Et avant même son élaboration dans le droit, il y a eu des débats sur ce qu'elle devait être en France, puisqu'il y a d'autres laïcités en plus dans le monde, parfois proches de celles françaises, parfois assez différentes. Mais si on s'en tient à la laïcité telle qu'elle découle de notre histoire singulière et telle qu'elle est traduite dans le droit, il n'y en a qu'une de définition. Et cette définition, pour essayer d'être très simple, c'est finalement celle d'un État, d'une administration publique qui est séparée des religions, quelles qu'elles soient, toutes les religions, donc qui est neutre, qui n'a plus d'orientation confessionnelle, hein, qui traite ainsi tout le monde de la même manière, donc qui garantit l'égalité de traitement de tous les citoyennes et citoyens, quelle que soit leur appartenance propre, convictionnelle ou confessionnelle, et qui, bien sûr, assure la liberté de conscience, la liberté de croire, de ne pas croire, de plus croire, de recroire, qu'importe, la liberté de toutes et tous d'exprimer et de vivre des convictions ou des croyances dès lors qu'ils ne troublent pas l'ordre public, c'est-à-dire les questions de sécurité, de santé publique, et qu'ils ne les imposent pas à autrui. C'est ça, en quelques mots, la laïcité. Et on pourrait dire aussi que c'est ce principe qui, vis-à-vis des convictions et des croyances, va permettre de décliner très concrètement notre devise républicaine. Donc un principe qui emporte des valeurs, c'est-à-dire que le principe qui va permettre de décliner en actes concrets, eh bien c'est ça, la liberté de conscience que j'ai dite, la l'égalité entre toutes et tous, quelle que soit leur appartenance, et qui concourent à la fraternité en offrant finalement une citoyenneté commune, puisque quelles que soient nos appartenances, nous sommes toutes et tous à égalité de droits et de devoirs, et on respecte l'autre dans sa conviction ou dans sa croyance, même si on ne la partage pas.
Alors pour revenir à l'hôpital, pouvez-vous nous dire quels sont les principes juridiques de la laïcité à l'hôpital et ce qu'ils apportent aux patients et aux soignants ? Parce qu'à l'hôpital, il y a le bâtiment, il ne faut pas oublier, hein, c'est très important. Il y a les gens qui font vivre le bâtiment, hein, l'électricien à l'hôpital, c'est fondamental. Et puis, il y a les gens qui vivent à l'intérieur et autour du bâtiment. Ce sont tous ceux qui l'entretiennent, ce sont les administratifs, ce sont les soignants, les soignantes, et ce sont les patients et les familles des patients, l'entourage des patients. Donc, tout ça doit être dans une laïcité. Et donc, est-ce qu'il y a des textes, des principes qui gèrent cette laïcité de toute cette société hospitalière ?
Oui, tout à fait. Alors, d'ailleurs, la santé à l'hôpital a été laïcisée à la fin du 19e siècle. Comme vous le savez, avant, la santé essentiellement était gérée par les établissements confessionnels catholiques, hein, dans le pays, de par l'histoire de
oui,
ce pays.
À Nîmes, on a la chance d'avoir la maison de santé protestante, où les protestants étaient soignés.
Exactement.
J'ai travaillé.
Mon père est le président, donc effectivement, j'ai une petite connaissance de la chose. Mais il en parle souvent, mais effectivement, c'est un établissement qui, effectivement, a été pensé à l'origine par quelques protestants pour assurer, en effet, l'aide aux personnes en difficulté, aux plus modestes, en particulier à l'origine de la communauté protestante, puisqu'effectivement, à l'époque, on était encore dans un pays très divisé, hein, oui. Où il y avait d'un côté les catholiques, de l'autre les protestants, et chacun faisait sa vie dans sa confession, malheureusement. Et effectivement, justement, l'aspiration laïque, c'est plutôt de faire ensemble au-delà de nos appartenances et d'arriver à avancer ensemble, quelles que soient nos appartenances. Et donc, heureusement, désormais, la maison de santé protestante, comme d'autres établissements confessionnels catholiques, accueille évidemment tous les patients, que soit leur horizon. Et c'est très bien ainsi. Mais en effet, on a à Nîmes cette marque, justement, entre les différents établissements confessionnels à l'époque, en effet, où il y avait encore une grande division, il faut le dire, entre les confessions du fait de notre histoire. Mais effectivement, la laïcisation de la santé a fait qu'on a abouti à des établissements publics de santé qui très tôt se sont occupés de tout le monde, quelle que soit bien sûr leur condition sociale ou donc leur appartenance convictionnelle et confessionnelle. Et c'est bien là la première règle, en effet, de la laïcité à l'hôpital, c'est l'accès à toutes et tous à ce service public qui doit être un service public de qualité et évidemment qui est dégagé de toute confession, de toute conviction, de toute orientation politique et aussi qui est tout à fait neutre.
Ah oui, au niveau politique, c'est pareil.
Ah, c'est pareil.
Il y a une laïcité, ça je peux en témoigner. Une laïcité religieuse et confessionnelle, mais aussi une laïcité politique.
En réalité, la neutralité est globale au niveau de toutes les idées, de toutes les orientations.
Quand vous allez en Inde, on vous demande votre religion.
Et
on ne demande pas le parti politique parce qu'ils connaissent pas. Mais à l'hôpital, il n'y a pas une croyance. Alors, sur la religion, peut-être qu'il y a des questions parce qu'il y a des homonies. On en parlera dans
Justement,
une émission.
On va en parler.
Voilà, mais ça, c'est une indication. C'est pas... Mais on ne vous demande pas quelle politique.
Non,
voilà. Donc, il y a une laïcité religieuse et une laïcité politique.
C'est-à-dire que voilà, chaque praticien de l'hôpital public, bien sûr, se doit d'être parfaitement neutre dans son comportement et dans son apparence pour ne pas laisser penser qu'il favoriserait les patients de telle ou telle orientation.
C'est la déontologie médicale.
Voilà, et même entre collègues, pour montrer qu'ils sont toutes et tous représentants, non pas de leur individualité, mais de l'établissement de santé en lui-même, de l'administration publique, de l'État, et donc du service public de la santé en général, pour offrir donc les meilleurs soins à tous les patients. Donc ça, c'est la base. C'est pour ça, vous l'avez dit aussi, que le bâtiment en lui-même de l'hôpital public est neutre. Il n'y a pas de signe religieux ou politique sur les bâtiments en eux-mêmes. Mais il y a quand même, vous l'avez dit, l'exception notable des aumôniers qui, évidemment, ne sont pas neutres.
Oui,
mais
ça, c'est autre chose.
Et on en parlera.
Alors, il y a des personnes à l'hôpital, et je l'ai écrit sur mes notes avec un grand P, elles ont des droits. Pouvez-vous nous parler de ce concept de droit des patients ? s'il vous plaît.
Oui, bien sûr, les patients aussi ont des droits. Alors, les professionnels ont des obligations, notamment à l'hôpital public, l'obligation de neutralité, mais aussi le respect du consentement libre et éclairé du patient, l'information loyale, claire, qui doit être délivrée aux patients, le secret professionnel, la confidentialité, la continuité des soins, donc toujours dans un esprit de non-discrimination, hein, c'est très essentiel, et la laïcité, évidemment, par définition, s'oppose à toute discrimination. Et puis les patients, eux, bien sûr, ont des droits, le respect de leur dignité, cette égalité d'accès aux soins, donc le droit d'avoir accès aux soins, quelles que soient leurs conditions ou leur confession ou conviction, d'avoir cette information réelle, complète sur leur état de santé, sur les traitements qui leur sont administrés, un consentement qui doit être libre par rapport aux soins, avec des refus possibles de soins, mais là on y reviendra parce qu'il y a aussi quand même parfois le médecin qui peut outrepasser cela quand il en va de sa vie. Mmh. Et bien sûr, un secret médical tout à fait assuré quant à leur situation.
Alors, 30 secondes sur
le secret. Et juste vis-à-vis de la laïcité, justement, ils ont notamment un droit, lorsqu'ils sont hospitalisés, c'est d'avoir accès à des aumôniers pour garantir leur liberté de culte.
Sur le secret médical, c'est un secret très particulier. Il est absolu, sauf pour certaines, notamment les enfants battus, les personnes fragilisées, etc. C'est un devoir de prévenir le juge, le juge uniquement, après c'est le juge qui s'en occupe, et il n'est pas partagé. Par exemple, le médecin ne partage pas le secret médical avec notre médecin. Mmh. Et ça, c'est quand vous vous confiez à un médecin, il ne peut en parler à personne.
Tout à fait.
Et bien souvent, on dit « Ah, j'ai vu un patient en commun, qu'est-ce qu'il a ?» Non, je n'ai pas à dire au médecin. C'est important, c'est un secret. Le secret médical est un secret absolu, qui n'a rien à voir avec le secret professionnel. C'est aussi un secret professionnel, mais c'est un secret absolu. Tant que c'est pour les patients, pour leur confort, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas aller consulter parce qu'ils ont peur. Alors je vous propose une trêve musicale avec Main dans la main, Eléa Zalé, thème différence, tolérance, fraternité.
Je ne suis pas comme toi, tu n'es pas comme moi, mais tous deux on ira, main dans la main. Danser autour du monde. Je ne suis pas comme toi, tu n'es pas comme moi, mais tous deux on ira, main dans la main dans cette ronde. Danser autour du monde. Vert marron bleu les yeux, brun roublon les cheveux, clair ou foncé nos mains, tous sur le même chemin. Je ne suis pas comme toi, tu n'es pas comme moi, mais tous deux on ira, main dans la main dans cette ronde. Danser autour du monde. Je ne suis pas comme toi, tu n'es pas comme moi, mais tous deux on ira, main dans la main dans cette ronde. Danser autour du monde. Prenons nos différences, restons dans l'insouciance, nous ferons face au vent, debout fort d'être ensemble. Je ne suis pas comme toi, tu n'es pas comme moi, mais tous deux on ira, main dans la main dans cette ronde. Danser autour du monde. Tu n'es pas comme moi, mais tous deux on ira, main dans la main dans cette ronde. Danser autour du monde. Je ne suis pas comme toi, tu n'es pas comme moi, mais tous deux on ira, main dans la main dans cette ronde. Danser autour du monde. Main dans la main dans cette ronde. Danser autour du monde.
Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jom sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui M. Nicolas Cadenne. Après nos échanges, moi qui suis professionnel de santé, je ne peux m'empêcher de vous poser la question: quels sont les droits des soignants au sein de l'institution hospitalière? Je ne vous pose pas cette question d'une manière corporatiste, mais pour que les patients le sachent. En fait, c'est que si on parle toujours du droit des patients, mais les soignants aussi ont des devoirs, mais aussi ont des droits, et ces droits les défendent, et défendent leurs patients. Ça, c'est fondamental, parce qu'on ne doit pas être sur la tutelle d'un administratif ou autre.
Bah, bien sûr, les soignants aussi ont des droits sur différents aspects. Déjà, ils ont une indépendance professionnelle. Ensuite, ils ont normalement des conditions de travail qui doivent respecter leur propre sécurité dans l'emploi, leur propre santé, leur propre dignité. Et puis, ils ont bien sûr aussi droit à une protection fonctionnelle lorsqu'ils sont mis éventuellement en difficulté. Et puis vis-à-vis, sur la question pardon, de la laïcité, les soignants ont aussi droit à leur liberté de conscience, justement. Donc même si à l'hôpital public, ils sont soumis à la neutralité hein, dans leur comportement, dans leur apparence, parce qu'ils ne représentent pas leur individualité, mais ils représentent bien l'institution publique, le service public, ils ont des droits, par exemple, eh bien, lorsqu'ils ont des fêtes religieuses importantes parce qu'ils seraient de telle ou telle confession, ils peuvent demander une absence et l'absence doit leur être octroyée sauf si elle perturberait le bon fonctionnement du service public, la continuité du service public. Donc ils ont quand même droit à cette réalité qui leur appartient dans leur vie privée mais qui peut avoir un impact sur la vie professionnelle. Et puis autre chose, il y a aussi la fameuse clause de conscience.
On en parlera dans une émission.
On en parlera plus tard.
Dans une autre émission, une émission spécifique à ça.
Et puis ils ont bien sûr, comme tout salarié, hein, des droits comme par exemple le droit à la formation. Ils doivent pouvoir formés tout au long de leur carrière.
Voilà, une question un peu pour provoquer, c'est un autre sujet aussi important au sein de l'hôpital, c'est la neutralité du service public hospitalier et l'expression religieuse des soignants. Alors, aussi, peut-on vivre une expression religieuse d'un soignant ? Alors, extérieur, une croix qui saute au-delà d'une blouse.
Et c'est là.
Un foulard, ouais, ouais. Une heure de prière, ben je ne sais pas quoi,
ouais,
c'est
ouais,
pas
tout
à moi
fait,
à dire,
ouais.
Mais c'est une question un peu glissante. Mais...
Non, mais tout à fait, c'est important. Et là, il y a une différence, justement, dans ce cadre, entre les établissements. Qui font du médico-social privé ou ceux qui sont publics, ceux qui sont dans l'exercice du service public ou ceux qui sont simplement dans des soins qui ne s'inscrivent pas forcément directement dans le service public qui serait délégué par une administration. Lorsque, par exemple, vous êtes dans un EHPAD et vous prodiguez des soins à des personnes âgées dans un EHPAD privé, vous avez une plus grande liberté puisque... vous n'êtes pas directement en délégation de service public, vous n'êtes pas directement représentant de l'administration, vous êtes représentant d'un établissement privé qui peut avoir un caractère propre d'ailleurs confessionnel. Parfois, il y a beaucoup d'EHPAD, de maisons de retraite, qui ont un caractère propre confessionnel. Donc, dans ce cadre-là, les soignants peuvent porter des signes religieux parce qu'ils ne représentent pas le service public neutre et impartial. En revanche, si vous êtes dans un hôpital aux urgences, dans le cadre d'un service public évident, là, vous êtes soumis en effet à une stricte neutralité. Et normalement, vous ne pouvez pas porter de signes religieux, qu'ils soient discrets ou non, parce que vous représentez non pas votre individualité, mais l'administration publique, neutre et impartiale. Ça ne l'empêchera pas, comme on l'a dit, d'avoir parfois des absences pour des raisons culturelles et dans le cadre du respect de sa liberté de conscience. Mais dans l'exercice précis de ses missions, sur le terrain, là, on lui demandera d'être soumis à la neutralité. Alors évidemment, ça peut arriver. Néanmoins, parfois, on va voir, comme vous l'avez dit, un signe qui dépasse ou autre. Là, ça se règle par le dialogue. Il n'y a pas de sanction immédiate. Et heureusement, il faut d'abord dialoguer, expliquer la chose. Et puis, si ça n'arrive que ponctuellement comme ça, c'est pas très grave. On règle la question par le dialogue. Si, en revanche, c'est quelque chose de constant, évidemment, il faut rappeler la règle. Vous représentez non pas votre individualité, mais l'administration hospitalière publique. Donc, pas de signe, qu'il soit religieux, philosophique ou politique, d'ailleurs.
C'est quelque chose qui est difficile à faire passer. Enfin, moi, je vois, quand j'étais à l'hôpital, j'ai été étudiant, j'ai été externe, j'étais interne, j'étais praticien hospitalier. Donc j'ai été formateur, enseignant universitaire, donc j'avais des stagiaires, des internes. Et quand on disait aux jeunes, j'ai dit non, mais vous n'avez pas le droit de... Mais ils n'arrivaient pas à comprendre. Mais c'est très difficile.
Il faut vraiment expliquer le sens de cette interdiction.
Au niveau médical, voilà. Je ne sais pas si au niveau médical, dans les premières années, des cours sur la laïcité et sur sur le côté administratif de l'hôpital ne serait pas nécessaire.
Si.
Mais c'est pas moi qui fais le.
Non, mais je suis bien d'accord. Il faut effectivement.
Par expérience, quoi.
Rappeler le sens de la règle. Si on dit juste c'est interdit sans expliquer la règle, les gens ne comprennent pas.
Ouais,
il faut effectivement expliquer le sens de la règle. Alors évidemment, quand on est étudiant en cours magistral à la fac, là, on n'est pas encore en situation, donc on peut porter des signes religieux. Mais à partir du moment où on exerce le service public à l'hôpital, là.
Bien souvent, on me disait, oui, mais c'est votre opinion. Je dis, non, c'est pas mon opinion.
Non,
c'est la règle. Et alors, enfin, une question que je pense essentielle et qui me tient à cœur. Nous avons parlé de l'hôpital, bien évidemment, du service public, mais il y a des différences entre le secteur hospitalier public et le secteur privé. Donc, est-ce que le secteur privé, est-ce que ça s'impose autant qu'à l'hôpital
Je l'ai un peu évoqué, mais ça dépend plus exactement si vous êtes dans l'exercice d'une mission de service public ou pas. Si, même si vous êtes dans un secteur privé, si on vous a délégué un service public, si en effet vous exercez le service public de la santé, vous devrez être soumis à la neutralité. Si ce n'est pas un service public, si c'est, je ne sais pas moi, si vous faites des soins alternatifs ou si vous faites des soins esthétiques ou certains soins qui ne sont pas directement inscrits dans le service public des urgences, par exemple, là, vous avez plus de liberté. Les soins qui ne sont pas directement liés au service public de la santé ne sont pas soumis du coup à une quelconque neutralité quand vous êtes dans le service privé.
Eh bien, Nicolas Cadenne, je vous remercie infiniment d'avoir partagé ces notions fondamentales pour notre société, notre vivre ensemble et d'avoir eu l'amabilité de venir nous rencontrer. Merci encore.
Avec grand plaisir.
Je souhaite, Nani, que vous avez un site que l'on peut consulter qui est alors www.nicolascadenne, ça se tient en minuscule bien évidemment. .fr. Donc, allez sur le site de Monsieur Cadenne. J'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui. J'ai demandé à Monsieur Cadenne de nous citer un ou des ouvrages. Nous pouvons citer deux de ses livres. Nicolas Cadenne, En finir avec les idées fausses sur la laïcité aux éditions de l'Atelier. Il y a une réédition en 2025. Et Nicolas Cadenne, La laïcité pour les nuls. First édition, réédition en 2017, c'est une collection que tout le monde connaît.
Oui.
Je veux dire, ce sont des best-sellers, c'est très très intéressant. C'est bien d'avoir écrit dans cette collection.
Oui, tout à fait.
Comment vous avez fait pour arriver chez First édition?
Ah, c'est ceux qui m'ont sollicité.
Ah,
c'est eux qui m'ont sollicité pour justement faire un ouvrage assez pédagogique, assez simple, accessible à toutes et tous.
Dans le moule de leur...
C'est bien. Pour comprendre assez simplement la notion clé.
Le livre marche bien?
Le livre a très bien marché.
Il est
en rupture d'ailleurs. Alors, on peut toujours le commander sur Internet, en tout cas en version numérique. Mais je me demande si ça n'est pas compliqué d'avoir désormais la version papier.
Bah, il faut le rééditer.
Il faut qu'il le réédite, en effet.
Merci encore à vous, Monsieur Cadenne.
Merci à vous.
Je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel. Je vous renouvelle mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus, à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre santé un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.